I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite.
Louis.
En écoutant ce nouvel épisode du Book Club avec l'autrice, chanteuse et compositrice Émilie Loiseau, j'ai tout de suite repensé à cette vidéo diffusée le 19 septembre 2020. L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui vient de signer un roman, Grand Ballon, est invitée sur le plateau télé de C'est l'Hebdo sur France 5. Elle réagit à un reportage consacré aux migrants actuellement retenus sur l'île de Lesbos, en Grèce. Elle a les larmes aux yeux face à des images déchirantes, insupportables. On lui pose alors cette question. Mais est-ce que l'hospitalité, ça peut faire une politique? Elle répond avec ce ton sublime dont elle a le secret.
Est-ce que le pillage fonde une politique?
Est-ce que le pillage fonde une politique?
Est-ce que la connivence avec la corruption fonde une politique?
Est-ce que la connivence avec la corruption fonde une politique? Face à la violence de l'incendie qui a ravagé le plus grand camp de réfugiés d'Europe, à Lesbos, son intransigeance fait du bien. Le roman du jour s'empare de la question migratoire à travers trois destins croisés. Ce sujet tient très à cœur à l'artiste Émilie Loiseau. Il accompagne sa vie quotidienne, comme sa musique. Son EP Origami, sorti en 2017, portait sur sa pochette un origami en forme de bateau. Elle a sorti cette année l'album Run Run Run, en hommage à Lou Reed et au Velvet Underground. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
Je suis en ce moment dans mon salon, l'endroit qui me semblait le plus calme à présent. Également l'endroit où par la fenêtre je peux voir mon jardin, ce qui pour moi est vital. Et d'ailleurs, il y a un canapé où si je suis allongée dessus pour lire, je vois mes arbres, mes fruitiers, mes tomates qui poussent, qui ont beaucoup trop poussé. C'est un endroit où j'ai mon piano aussi, ma bibliothèque. Donc voilà l'endroit que j'ai choisi. Alors, est-ce que j'ai lu des choses intéressantes ces dernières semaines, livres, articles ou tout simplement des définitions de mots croisés? Alors j'ai lu plein de choses. Et il y a un mot, une définition qui me revient. C'était pendant l'enregistrement de mon prochain album. J'étais en Angleterre pour enregistrer mon prochain disque. Et nous avons discuté avec mon batteur qui me demandait si je savais ce que c'était que l'ultra-crépidarianisme. J'étais forcée de lui dire que non, à ma grande honte. Et donc j'ai découvert ce mot, à savoir le fait de l'art, on pourrait dire, de parler de ce qu'on ne connaît pas. un art que nous avons tous beaucoup utilisé ces derniers mois depuis l'apparition de ce Covid et que nous utilisons d'ailleurs, je crois, bien trop fréquemment. Donc je vais tâcher de pas trop faire d'ultra-crépidarianisme au fil de cette interview. Approchez-vous de votre bibliothèque et pouvez-vous décrire un peu à quoi elle ressemble? Alors là, il y en a une dans cette pièce qui est le salon. C'est une vieille bibliothèque vitrée en bois foncé, plutôt foncé, entre foncé et clair, mais bon, pas clair, quoi. Bref. elle est moitié vitrée, elle a été chinée, et je l'aime beaucoup. Même si les portes sont très difficiles parfois à ouvrir. Vous voyez, j'ai fait un petit bruit, c'est pas toujours simple. J'en ai deux autres dans la pièce d'à côté, qui est la pièce où il y a le piano que j'ai hérité de à ma grand-mère. Mais que une pièce que je n'utilise pas en ce moment, puisque nous hébergeons chez nous un jeune réfugié qui a besoin d'un lieu pour vivre et manger. Donc cette pièce, pour l'instant, est la sienne. Est-ce qu'il y en a d'autres dans ma maison ? Il y en a un peu partout. Il y en a dans le couloir qui donne vers le jardin. Et il y en a une autre dans les toilettes. Voilà, en gros. Quel est le livre le plus improbable, inclassable de votre collection ? Oui, j'ai un livre auquel je pense là et que je suis allée chercher dans cette fameuse bibliothèque du salon et qui s'appelle « L'éloge du carburateur » de Matthew B. Crawford, qui est un essai sur le sens et la valeur du travail. Matthew B. Crawford, c'était un universitaire brillant, génial, très bien payé, qui travaillait dans un think tank aux États-Unis à Washington. Au bout d'un moment, il a fait un genre de burn-out. Enfin, il était déprimé, il a démissionné. Et il a ouvert à la place, il a décidé d'ouvrir un atelier de réparation de moto. Cette reconversion lui sert d'appui pour réfléchir sur la valeur du travail dans nos sociétés occidentales. Et donc, il y a un mélange comme ça d'anecdotes, de réflexions philosophiques. Et il montre que le travail intellectuel est finalement souvent vidé. Il est déresponsabilisant, quoi. Il nous empêche ce contact avec le réel et nous empêche de nous sentir en prise avec lui. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup le titre. Ce qui rejoint une autre de vos questions qui me demandait un titre que je trouvais surprenant ou que j'aimais, je trouve que l'éloge du carburateur fait bien le boulot. Voilà, ça parle beaucoup d'obsolescence programmée finalement, de cette manière dont on nous dépossède de notre capacité à réparer les choses, à nous les approprier, à savoir comment les choses fonctionnent. Qu'attendez-vous principalement d'un livre lorsque vous en débutez la lecture ? À vrai dire, plein de choses, et ça dépend du livre en soi. Quand on démarre un livre, on sait un petit peu ce qu'on va y chercher, j'ai envie de dire, quand même. Il est rare qu'on prenne un livre complètement par hasard. Ça peut arriver, mais pour moi, c'est quand même assez rare. Donc, c'est quelque chose que je vais chercher. Donc, ça peut être un voyage. Globalement, pour chacun, j'espère que je vais plus réussir à le lâcher, qu'il va m'obséder, que je vais avoir envie de le lire tout le temps et que le lâcher va être compliqué. C'est pas toujours le cas, mais parfois, quand on rentre vraiment, quand un livre vous prend, il y a cette sensation et elle est démente. C'est une deuxième vie, quoi. C'est une vie parallèle et j'adore cette sensation-là. Je cherche souvent aussi une inspiration parce que je me sers beaucoup de mes lectures pour l'écriture. C'est parfois un moteur, un levier, comme un trampoline, quoi. Comme quelque chose, d'un seul coup, un mot, une phrase, vont déclencher quelque chose. C'est souvent des déclencheurs pour moi, l'écriture, qui sont des déclencheurs à la fois hasardeux et en même temps pas complètement, parce qu'encore une fois, on choisit un livre pour ce qu'on pressent qu'on va y trouver. Et puis effectivement, j'aime aussi parfois être bousculée, émue. Quand je choisis un livre qui peut être moins un roman qu'un livre documenté, d'apprendre des choses que je ne sais pas et de changer ma perspective sur certains sujets. Il y a un vrai sens de narration dans vos morceaux. Vous n'avez jamais voulu essayer d'écrire des romans, des nouvelles. Si, j'y songe très souvent. La pièce de théâtre Mona, qui accompagnait mon album et que j'avais écrite, était d'abord une nouvelle. Donc je pense que le temps viendra. Je ne peux pas le garantir non plus, mais je pense qu'il viendra, j'ai cette sensation. Mais avant tout, il faudra une nécessité, une évidence, quelque chose de vital qui puisse être entravé par rien. Pour moi, s'il n'y a pas ça, que ce soit dans l'écriture d'une chanson ou de quoi que ce soit, dans toute œuvre en fait, qu'on déciderait, à laquelle on déciderait de s'attaquer, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de validité. Ça doit être vital. Ou alors il vaut mieux se taire. J'ai choisi Eldorado de Laurent Godet, qui a été écrit en 2006, qui est un roman de 238 pages, et qui est un roman bouleversant et merveilleux, une sorte d'épopée réelle. Comment avez-vous découvert cet ouvrage? Est-ce un cadeau? Êtes-vous tombé dessus par hasard? Vous l'a-t-on conseillé? Je me souviens plus très bien, mais je crois surtout que j'en ai entendu parler et que j'ai écouté Laurent Godet à la radio. Voilà, c'est un livre qui parle de l'immigration clandestine et qui est un livre profondément engagé, même si c'est une épopée romanesque. Et donc, c'est un sujet pour lequel je me suis beaucoup engagée, je continue de beaucoup m'engager. Et donc, évidemment qu'à un moment donné, je suis tombée sur ce livre. Alors, c'est donc l'histoire de trois destins, plusieurs destins parallèles qui finissent par se recouper. Donc, il y a le commandant d'un navire de garde-côte italien, de Catane, qui est chargé d'intercepter les embarcations qui viennent d'Afrique du Nord et qui amènent illégalement les migrants, hommes, femmes et enfants vers l'île de Lampedusa. Et il se retrouve bousculé dans ses certitudes et il remet fortement en question sa vision du monde et sa vie face à différentes rencontres. Le deuxième destin, c'est une femme qu'il va être amené à rencontrer assez vite dans le livre, assez tôt dans le livre. Une femme sauvée de la mer par ce commandant et qui, par contre, a perdu son enfant, son bébé, qui est mort de soif et de chaud lors d'une traversée de la Méditerranée où des passeurs les ont trahis et donc laissés abandonnés au milieu de l'océan sous le cagnard. Et donc, elle veut se venger. Et le troisième destin est celui de deux jeunes frères qui viennent du Soudan et qui décident de quitter leur pays pour l'espoir d'une vie meilleure, et ils font route vers la Libye pour rejoindre l'Europe. Voilà. Donc ces histoires se tissent, elles sont d'abord en parallèle, puis elles se mêlent et dessinent une sorte de paysage et d'un chemin commun qui est celui d'une quête de l'espoir, en vrai. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre, c'est que c'est un sujet qui m'obsède moi depuis l'adolescence. Je pense que j'ai été sensibilisée à ça par le grand engagement et militantisme de mon père. Et puis, ce sujet du départ, le choix de tout quitter de sa vie, au risque de perdre sa vie. Le sujet de notre incapacité à accueillir dignement, sans heurts et sans peur. Nos peurs qui sont dressées comme des étendards alors qu'en face de nous, il y a le désespoir de ceux qui n'ont pas d'autre choix. J'ai beaucoup évoqué déjà ce sujet dans mon EP qui s'appelait Origami et qui était le disque d'une bande originale d'un documentaire sur les enfants mineurs isolés dans la jungle de Calais qui s'appelle Les Enfants de la Jungle. J'ai également monté un événement qui s'appelait Fais ton bateau en hommage aux milliers de morts en mer Méditerranée en soutien à SOS Méditerranée et à toutes ces organisations à Paris et ailleurs qui essayent d'aider ces gens, de protéger les mineurs isolés. Voilà, donc c'était un événement qui regroupait des débats, un concert, des projections de films. Donc c'est un sujet qui m'obsède et qui m'habite et qui continue de le faire et pour lequel je continue d'être active à mon échelle, à ma petite manière, là où je peux, y compris en ouvrant ma porte à ceux qui en ont besoin quand cela m'est possible. Voilà. Donc voilà, ce livre m'a bouleversée parce qu'il parle que de ça et qu'il en parle en même temps d'une manière divinement romanesque, poétique, engagé. C'est encore une fois une épopée, mais une épopée d'aujourd'hui. Et Laurent Godet arrive de cette manière épique et complètement magnétique à s'emparer de ses destins pour raconter quelque chose de l'ordre du mythe, de l'ordre d'une histoire éternelle qui serait au-delà du temps. D'une quête d'un pays où on pourrait se sentir en sécurité et en liberté et où la main serait tendue. Donc il y a beaucoup de passages dans ce livre qui m'ont marqué, qui m'ont habité. Il y a eu des moments où j'ai eu besoin de le poser, de le fermer parce que c'était trop dur, parce que les larmes montaient, parce qu'il fallait qu'elles sortent, parce que la colère était trop présente et que je ne comprenais plus ce que je lisais. parce que j'étais bouleversée, tout simplement. Donc je crois que c'est un livre très fort, très important. Et j'aimerais engager chacun à le lire. Il se lit très facilement, c'est pas long, c'est très beau. Et je crois que ça dit beaucoup de choses et ça fait tomber. S'il y a un livre qui pourrait faire tomber les peurs et nos réticences et nos replis sur nous, je crois qu'il en fait partie, parce que je crois que il n'y a qu'au travers des histoires qu'on peut raconter en tant qu'auteur ou artiste ou même citoyen, des histoires qui deviennent les nôtres, qui rentrent dans une intimité, qu'on peut réussir à aller chercher l'âme des autres et à les faire vibrer ensemble pour un désir d'un monde différent et d'un monde meilleur. Et je crois que comme ça, on peut changer petit à petit la vibration de chacun et peut-être un peu de ce monde. Y a-t-il un passage ou une phrase de ce livre qui vous a particulièrement marqué? Oui, il y a un passage, celui qui m'a fait vraiment refermer, reposer le livre pendant quelques heures. C'est le moment où cette femme est à bord de ce canot, qu'elle réalise que les passeurs les ont embobinés, qu'ils sont seuls, qu'ils n'ont plus d'essence, si ma mémoire est bonne, que le canot ne peut plus avancer et qu'ils sont au milieu d'un soleil de plomb et qu'ils vont y passer. Mais il y a un moment où elle est avec son bébé et elle ne sait pas si elle lui donne à boire. Elle essaye, son bébé est contre elle et à un moment, elle ne sait pas si son bébé dort ou s'il est mort. Et ce moment, je ne le décrirai pas plus. Je vous laisse rentrer dans ce livre. Je l'ai trouvé insupportable, absolument réel pour les histoires et les témoignages que j'ai pu entendre, et absolument insupportable quand on est parent de deux enfants. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'imaginer, de le lire, de le ressentir, de le vivre, parce que Laurent Godet a une manière de raconter ça qui est tellement juste, sans emphase. Voilà, ça, j'en ai fait une chanson, effectivement, de ce passage. C'est important pour vous de mettre votre notoriété au service de cette cause? Oui, oui, bien sûr. Je crois que je m'efforce d'avoir une parole absolument libre et de n'être derrière aucune bannière politicienne. Mais par contre, il y a des engagements qui sont vitaux, importants pour moi. Et si je peux, à la toute petite échelle, par les histoires que je raconte dans mes chansons, par le micro qu'on me tend parfois, donner un peu d'éclairage là-dessus, aller chercher les âmes des gens, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, je crois qu'il est indispensable que je le fasse, mais je ne le ferais pas s'il n'y avait pas en moi cette vibration très forte qui me donne le besoin de le faire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si sa vibration vitale, elle n'est pas là, alors il vaut mieux se taire. Il n'y a rien de pire qu'une mauvaise chanson engagée ou qu'une chanson plate ou fade qui chercherait à aider une cause. Donc voilà, c'est parce que je suis poreuse à cela que mon écriture a commencé à parler de tout cela. Par contre, en tant qu'artiste, par contre, en tant que citoyenne, j'ai la parole un peu plus que certains. Et donc oui, ces causes sont, je pense... Il est de notre responsabilité de citoyens à tous de prendre position sur certaines choses. Et donc, je le fais, comme beaucoup d'autres le font. Et si vous pouviez vous adresser directement au personnage du roman, qu'aimeriez-vous leur dire? Les mots, je crois, me manqueraient. Et je crois que j'aimerais juste les prendre dans mes bras. Pour finir, est-ce que vous auriez d'autres ouvrages à nous conseiller sur ce sujet, des œuvres cinématographiques ou même des séries? Alors moi, je recommanderais le documentaire de la BBC, qui a aussi été coproduit par le Canal+, je crois, qui a été en deux volets, me semble-t-il, qui s'appelle Exode. Les journalistes, après avoir confié les téléphones portables à différents migrants, les ont ensuite suivis dans leur parcours migratoire, avant, pendant, après. Il y a des hommes célibataires ou des hommes mariés qui espèrent pouvoir faire venir leur famille, des familles.
c'est bouleversant. Et je trouve qu'il faudrait que chacun voit ce film, parce qu'on ne peut pas s'extraire, en fait, de leur situation, de leur vie. On ne peut pas prendre de distance, c'est pas possible. Ils sont comme nous, ils sont exactement comme nous, ils sont nous, en fait. Ça saute au visage. C'est exactement ce que dit Daniel Pennac, eux, c'est nous. Et je crois que quand on a traversé ce film, ça vaut tous les discours du monde. Ça vaut... Il n'y a plus de question de douter de quoi que ce soit. Voilà. Il faut changer radicalement les choses et stopper ça immédiatement.
Vous venez d'écouter Émilie Loiseau à son micro et elle répondait aux questions d'Oriane Olivier. Elle vous recommande Eldorado de Laurent Godet, publié en 2007 chez Actes Sud. Émilie Loiseau est autrice, compositrice et interprète. Elle vient de sortir un double album hommage, Run Run Run, à Lou Reed et au Velvet Underground. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Amel Almia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je vous recommande notre podcast Cliché, coproduit avec la Croix-Rouge française. Dans l'épisode 7, Marion Huot raconte comment elle aide les familles éloignées par la migration ou par les catastrophes naturelles à se retrouver. Bonne écoute et à très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.